Lies of P est un monde et un univers de mensonges, et de fait, il est un jeu rempli de secrets. Lors de ma dernière vidéo, j'ai eu l'occasion de vous présenter la trame narrative principale, et je vous avais alors expliqué qu'il aurait été beaucoup trop complexe d'y inclure toutes les histoires parallèles qui parsèment l'aventure. La vidéo d'aujourd'hui aura donc cet objectif, celui de vous éclairer sur certains des pans les plus mystérieux de cette histoire, des secrets ou anecdotes parfois bien cachées, et les révélations sur certains personnages au travers des quêtes annexes. Comme d'habitude, je n'ai pas toutes les réponses, et certaines relèvent de ma simple interprétation. Tenez-en compte, et vous êtes évidemment libre d'en discuter dans la section commentaires de cette vidéo, qui est là pour ça. Hello à tous, c'est Ludic, et bienvenue pour plonger une ultime fois dans l'univers sombre de Lies of P. Protect. Fulfill. Your destiny. Allez, on commence avec un secret plutôt léger qui n'en est pas vraiment un, mais saviez-vous que vous pouvez pet the cat dans Lies of P, autrement dit, le domestiquer? Dans ma précédente vidéo, je vous expliquais que l'action de mentir était l'une des features principales du jeu qui permet à P, votre personnage, de gagner en humanité. Étant donné que dans Lies of P, mentir, c'est très souvent prendre en compte la souffrance et les sentiments humains. Sauf qu'au début de jeu, quand vous êtes une simple marionnette, le chat ne vous laissera même pas le toucher et se montrera très menaçant. Certainement car il a été élevé par Eugénie et qu'elle-même se montre plutôt craintive vis-à-vis des automates. Mais au fur et à mesure que vous allez gagner en humanité, fonction de vos choix, le chat va petit à petit commencer à vous accepter. Il vous laissera dans un premier temps le caresser, puis vers la fin du jeu, quand vous serez proche du maximum d'humanité, il acceptera même de venir dans vos bras. Un petit détail qui reste anodin bien sûr, mais qui je trouve ajoute à l'immersion et à la cohérence scénaristique et diégétique de Lies of P. D'ailleurs, en parlant d'humanité, saviez-vous qu'il existe un moyen très simple de l'acquérir sans avoir à proférer de mensonges? Au cours de votre aventure, vous tomberez à plusieurs reprises sur des disques, des musiques que vous obtenez, soit via l'exploration, soit en remplissant des quêtes, musique que vous pourrez alors jouer sur le tourne-disque du hub principal à l'hôtel Krat. Si vous écoutez une musique jusqu'au bout, les ressorts de paix réagissent et ils gagnent alors en humanité. Une façon simple et efficace de laisser l'identité de Carlo prendre le dessus sans avoir à proférer de mensonges à tout va. Et pour finir avec l'humanité, vous le savez, cette dernière est mesurée par un tableau de Carlo se trouvant dans le bureau de Gepetto et dont le nez s'allonge à mesure que P gagne en humanité. Mais saviez-vous qu'en atteignant le niveau maximal, vous obtenez une arme unique du nom de Mensonge Doré? Il y est fait mention d'un conte sur une marionnette de bois que Carlo adorait, car au moins dans cette histoire, le père de la marionnette était gentil. Vous l'aurez compris, on parle ici du véritable conte de Pinocchio, dans lequel Gepetto est plutôt gentil, là où dans Lies of P, c'est plutôt tout le contraire. Allez, il est temps de passer sur des révélations un peu plus sérieuses, et si vous avez vu ma précédente vidéo sur le sujet, j'y parlais de l'enfance de Carlo, le fils de Gepetto, qui s'est lié d'amitié avec deux autres enfants, du nom de Roméo et Lampwick. Mais vous êtes-vous demandé ce que sont devenus exactement ces deux enfants? Bon, pour Roméo, c'est assez clair. Il est mort à peu près au même moment que Carlo dans l'épidémie de pétrification, et par la suite, Gepetto lui a redonné vie au travers d'un automate qui deviendra le roi des marionnettes. Mais qu'est-il advenu de Lampwick? On peut considérer qu'il est mort, bien sûr, tout comme Carlo et Roméo, mais partons deux secondes du principe qu'il est encore vivant, ou du moins qu'il l'était au début du jeu. Car oui, je pense que Lampwick est un personnage que vous croisez très tôt dans votre aventure, un rôdeur du nom de L'Âne Fou, et que P affronte alors qu'il s'attaque à la carriole de Gepetto sur le boulevard de l'Élysion. Pourquoi j'en viens à penser ça? Eh bien tout simplement parce que dans l'œuvre originale de Pinocchio, ce dernier se lie également d'amitié avec un personnage portant le nom de Lampwick, et qui deviendra plus tard The Mad Donkey, à savoir en français l'âne fou. Cela explique donc pourquoi il s'attaque à Gepetto, furieux, réclamant de savoir ce qui est arrivé à ses amis. Si on regarde plus en détail la description de sa tenue, on y lit la chose suivante. Il voulait juste connaître la vérité, la raison du massacre de ses camarades. Triste, n'est-ce pas, de se dire qu'au bout de 2 heures de jeu même pas, P tue en fait de sang-froid son meilleur ami. Je vous rassure, j'étais moi aussi dégoûté quand je m'en suis rendu compte. Puisqu'on en est à parler des amis d'enfance de Carlo, je me dois d'évoquer le cas de la rôdeuse légendaire, celle qui a formé les 3 garçons qu'étaient Carlo, Roméo et Lampwick, et qui a assisté, impuissante, à la mort de 2 d'entre eux. Difficile de deviner également son devenir. Certains pourront penser qu'il s'agit de Laxasia, mais c'est impossible puisque Laxasia est en réalité sœur Adriana, une fidèle de l'abbaye de l'Arc. On pourrait également songer à Antonia Serrazzani, gérante de l'hôtel Crate, mais je n'y crois pas non plus, Antonia nous étant présentée seulement comme une femme riche et noble, connue autrefois pour sa remarquable beauté. Non, je pense que la vérité est ailleurs et que, comme pour Lampwick, la rôdeuse légendaire est un autre personnage que vous croisez de façon anodine au cours de votre aventure, et ce quand P arrive au début de la rue Rosa Isabelle. Une vieille dame s'adresse alors à P, lui demandant de lui ramener une bouteille de Blaivès. Le Blaivès est un célèbre vin rouge, connu pour être la boisson préférée de la rôdeuse légendaire. Vous l'avez donc compris, je pense qu'il s'agit de cette femme. Ce qui expliquerait que quand elle s'adresse à P, elle lui dit la chose suivante.
Ah, oh, my stalker friend. I was worried the puppets had come back.
Mon rôdeur préféré, vous en conviendrez, c'est étonnant, dans la mesure où c'est ici la première fois qu'on la rencontre, ce qui confirme, selon moi, qu'elle a bien reconnu Carlo sous les traits de P, le garçon qu'elle avait autrefois formé. On continue notre listing des personnages secondaires, et là on passe à ce qui est pour moi la quête annexe la plus intéressante du jeu, celle qui met en scène Eugénie et Alidoro, chasseurs de trésors que vous croisez à la cathédrale, et qui s'occupera de vous confectionner les armes de boss. Eugénie, quant à elle, est originaire du pays du Matin, qui est une référence à la Corée, le pays d'origine des développeurs. On en trouve d'ailleurs d'autres tout au long du jeu. Quand Eugénie voit Alidoro arriver à l'hôtel Crate, elle se lie d'affection pour lui et semble reconnaître celui qui l'avait sauvé des décombres lors de l'attaque de la tour de l'atelier par des marionnettes. Eugénie entreprend alors de fabriquer pour Alidoro un gant personnalisé, mais avec 4 doigts seulement, car elle se souvient qu'il en a perdu un en la sauvant. Pourtant, quand P remet le gant en question à Alidoro, il ne lui va pas et ce dernier se met en colère. Après qu'il ait choisi de vous trahir et de capturer Gepetto pour le compte des alchimistes, Alidoro avoue ne pas être le vrai Alidoro, mais son ancien partenaire et meurtrier.
I am not Alidoro, the hound. Not the real one, anyway. I used to be Alidoro's partner. We argued. One thing led to another, and I had to kill him. Stealing his identity was the logical next step. My original code name is Parrot, after all.
Mais alors, qui est le véritable Alidoro? Eh bien, en tuant le faux, vous récupérez un message du vrai adressé à Eugénie, dans lequel on comprend qu'il s'agit en réalité de son frère, un ancien alchimiste qui a dû fuir et qui a alors entrepris de protéger sa sœur dans le secret. Mais Alidoro n'est pas n'importe quel alchimiste, il est celui mentionné par le journaliste Medoro dans l'un de ses journaux, celui qui a traversé l'océan et a changé d'identité pour mettre au jour leurs véritables intentions. On peut même retrouver son cahier, reconnaissable à l'oiseau doré sur la couverture, puisque Alidoro signifie en italien « aile dorée ». Il y explique avoir détruit la statue de la Sainte, certainement un symbole des alchimistes, pour empêcher les humains de l'utiliser. Tout ça dans l'espoir de leur échapper et de sauver l'enfant qu'était alors sa sœur Eugénie. Une histoire à la base anodine, mais qui s'avère au final magnifique. Si la vidéo te plaît et que tu ne veux pas que je te transforme en monstre à l'aide du bras divin, pense à cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Allez, bon visionnage. On était sur le frère et la sœur, on passe maintenant sur les deux sœurs, Patricia et Adelina Corday, à l'histoire tout aussi tragique. Patricia et Adelina sont à la base deux chanteuses d'opéra très talentueuses, mais l'une sûrement un peu plus que l'autre, ce qui peut être à l'origine de grandes jalousies. Obsédée par sa propre réussite, Adelina va s'attaquer à sa sœur et la priver de sa légendaire voix, bien qu'il ne soit pas vraiment dévoilé dans quelles circonstances, ce qui offrira le loisir à Adelina de récolter tous les lauriers et de devenir la tête d'affiche de l'opéra de Crate, assurant même les trois rôles d'une seule et même pièce. Quant à sa sœur Patricia, elle deviendra rôdeuse, une rôdeuse que vous aurez l'occasion d'affronter lors de votre chemin vers l'opéra. Cette dernière a perdu la raison et elle semble avoir mis en scène un spectacle sanglant, reproduisant, on l'imagine, le moment où elle a perdu sa voix. Quant à Adelina, si vous acceptez de lui remettre une pomme, qu'on peut voir comme un symbole de la tentation et de la trahison d'une sœur envers l'autre, elle finira par mettre fin à ses jours. Plus tard, en arrivant dans les marais stériles, on comprendra également qu'Adelina était liée à un autre personnage, le fameux docteur Hibou. Un docteur qui a été rendu fou par des expérimentations des alchimistes, et il est d'ailleurs le fameux sujet 890 mentionné dans un document de l'abbaye de l'Arc. Vous constatez que même quand on pense qu'il n'y a pas de connexion dans Lies of P, on finit par en trouver. On enchaîne avec un autre duo qui a dû retenir votre attention, je parle bien sûr du chat et de la renarde. Alors si vous êtes familier de l'œuvre originale de Pinocchio, vous avez peut-être choisi, comme moi, de ne pas leur faire confiance. Et vous auriez eu tort, car en effet, si vous rejetez leurs offres à la fin du jeu, ils vous attaqueront. En revanche, si vous acceptez de leur donner à plusieurs reprises un fruit pièce d'or pour soigner la maladie du chat noir, au contraire, ils se prendront d'affection pour vous et vous laisseront passer à l'abbaye de l'Arc. On apprendra alors que la renarde rousse n'est pas qu'une rôdeuse ordinaire, puisqu'elle est originaire d'une des plus grandes familles de Crate, la famille Wolfe, alliée des alchimistes et qui s'était notamment opposée à Valentinus Monade. La renarde rousse a perdu dans sa jeunesse son plus jeune frère, ce qui l'a poussée à prendre la fuite et à cacher son identité. Elle a alors fait la rencontre du chat noir, qui a choisi de se faire passer pour son frère disparu. Est-ce que la renarde savait qu'il mentait ? Très probablement, mais elle a choisi de fermer les yeux et de l'accepter à ses côtés, joli clin d'œil quand on sait que le chat noir est justement atteint de cécité. D'ailleurs, puisqu'on parle des rôdeurs, savez-vous pourquoi ils portent tous un masque d'animal ? Il s'agit d'une tradition, héritée de l'ancienne Crate à l'époque du Chevalier Saint. Les guerriers qui affrontaient ce qu'ils appelaient alors les titans de roche se battaient en étant munis d'un masque d'animal, une tradition qui s'est perpétuée au fil des années jusqu'à atteindre les rôdeurs qui l'ont alors repris à leur compte. Il est temps d'évoquer l'une des histoires les plus tristes de Lies of P, celle de Lorenzini Venini. Le célèbre artisan cache un passé très sombre. Lorsqu'il était enfant, à la sortie d'une pièce de théâtre à laquelle il assistait, ses parents furent brusquement assassinés. Il s'agit du premier meurtre recensé d'une marionnette sur un humain, et c'est d'ailleurs ce qui a plus tard motivé son envie de créer le grand contrat des marionnettes pour éviter qu'un tel malheur se reproduise. Si vous prenez la peine de résoudre les énigmes des salles de la Trinité, vous finirez par rencontrer ce meurtrier. Il s'agit d'Arlecchino, un automate doué d'un ego, mais pas n'importe quel ego, puisqu'il s'agit de celui d'un meurtrier en puissance, et qui jouait justement le rôle d'Arlequin dans la pièce de théâtre à laquelle Vénini assistait ce soir-là. Arlecchino nous explique avoir laissé Vénini en vie car il était curieux de voir ce que l'enfant deviendrait, et à l'image des alchimistes qui transforment les marionnettes en humains, il voulait tuer les humains pour les faire ressembler à des marionnettes. Si cette histoire vous rappelle quelque chose, c'est normal, elle s'inspire assez clairement de l'antagonisme Batman-Joker, l'histoire personnelle de Vénini étant fortement inspirée de celle de Bruce Wayne, et Arlecchino, Arlequin en français, étant l'une des sources d'inspiration pour le Joker.
Thanks to them, I get to see Vénini endure twice as much pain.
Et puisque j'évoquais les salles de la Trinité, qu'est-ce que la Trinité exactement ? Elle nous est présentée dans le jeu comme une organisation secrète qui contrôle Krat, mais on n'en sait guère plus. Une association des riches familles de Krat, des alchimistes ? Ou alors s'agit-il de l'organisation évoquée par Paracelsus à la fin du jeu ? Arlecchino nous indique avoir volé quelque chose aux alchimistes, puis l'avoir emmené à Krat. Parle-t-il du bras divin ou de l'ergot ? Arlecchino était-il un outil au service de la Trinité ? Ce pourquoi on le retrouve transpercé d'un tuyau dans la dernière salle ? Beaucoup de questions et malheureusement pas beaucoup de réponses, il nous faudra sûrement attendre un éventuel DLC. Je parlais tout à l'heure d'Arlecchino comme d'une marionnette douée d'un ego. Savez-vous qu'on n'en croise à ma connaissance que 7 au cours de notre aventure ? Carlo, Romeo, Laxasia, Arlecchino, une marionnette croisée au marais stérile, et les deux dernières se trouvent à l'hôtel Krat. Pulcinella, le majordome de Vénini, et Polandina, celui de Dame Antonia. Ils nous avoueront tous les deux avoir éveillé leur ego, motivés et encouragés par les sentiments à l'égard de leur maître. Polandina s'avoue terrifié à l'idée de perdre sa maîtresse, et il vous demandera de concevoir un remède à sa pétrification. Le choix vous reviendra alors de la guérir et lui offrir une mort rapide, ou de ne pas la soigner mais de la laisser vivre plus longtemps. Quant à Pulcinella, il vous dira avoir éveillé son ego dès l'enfance de Vénini, après que ses parents aient été assassinés, et il cherche à se racheter en ne pensant qu'au bonheur et à la prospérité de son maître. Avez-vous rencontré Patches dans Lies of Pi ? Un menteur comme lui avait forcément sa place dans le jeu. Vous croiserez au détour d'une énigme juste avant Maloum, un homme anodin qui vous remet une clé et vous invite à récupérer le trésor dans une cabane voisine. Évidemment, c'est un piège, le plancher s'effondre et vous tombez dans une embuscade. Quand vous ressortez, le malandrin est déjà loin. Un petit clin d'œil drôle et bienvenu envers From Software, les maîtres du genre. Vous êtes-vous demandé pourquoi la symbolique du papillon était autant présente dans Lies of Pi ? Cet insecte est très souvent associé au cycle, à la renaissance, des thèmes que l'on retrouve d'ailleurs dans Elden Ring et qui collent parfaitement aux thématiques explorées dans Lies of Pi, notamment le transhumanisme. Mais la présence du papillon pourrait avoir une toute autre signification. Si on regarde l'insecte de plus près, il est celui dont les ailes se rapprochent le plus de celles d'un ange. Or, la thématique angélique est aussi très forte dans Lies of Pi, notamment avec l'ange à une aile ayant atterri à Krat et qui est plusieurs fois évoqué dans le jeu. Cela donne, selon moi, des pistes d'explication possibles sur la présence aussi forte de ce symbole dans Lies of Pi. Il nous reste à évoquer la fameuse grotte de l'ermite, une grotte se trouvant dans les marais stériles et devant laquelle se tient un personnage du nom de Hugo, un archéologue, qui vous enjoint à ouvrir la grille. D'ailleurs, sachez que si vous choisissez de tuer Alidoro, c'est Hugo qui prendra sa place à l'hôtel Krat. Une fois la grille ouverte, vous accédez à une grotte remplie de monstres, qui s'avère être en réalité le dernier refuge du célèbre journaliste Medoro. Via un document trouvé sur le lieu, on apprend alors que Medoro était proche de plusieurs personnages très importants, comme Venini ou Sophia. Au vu des inscriptions qui se trouvent sur les murs de la grotte, on peut même supposer qu'il s'agit de l'endroit où Sophia Monade a pour la première fois manifesté ses pouvoirs vis-à-vis de l'ergo. Au fond de la grotte se trouve un monstre qui, en mourant, laisse échapper les paroles suivantes. Il vaut peut-être mieux que ça finisse ainsi. Et je pense que ce monstre pourrait être Medoro, qui a fini par succomber à la pétrification. En début de vidéo, j'évoquais la mort de Carlo, le fils de Geppetto, mais où a été enterré son véritable corps? Je pense avoir la réponse, et à mon avis, il s'agit de cette tombe juste avant le premier Stargazer du Sentier du Pèlerin. On y trouve le message suivant. Un enfant qui était une bénédiction pour sa famille repose ici, puisse-t-il reposer en paix? C'est d'ailleurs sur cette tombe que l'on récupère la marque du lapin souriant, la marque des rôdeurs, qui nous permettra d'accéder à la cathédrale et qui, selon moi, appartenait à la rôdeuse légendaire. À proximité de cette tombe se trouve le fameux Stargazer doré, qui a fait couler beaucoup d'encre car inutilisable à l'heure actuelle. Si je devais deviner, je pense qu'il s'agit du point de départ pour le futur DLC, dont l'intrigue tournera selon toute vraisemblance autour du magicien d'Oz. Le Stargazer doré serait alors une référence à la route de briques jaunes, un chemin emprunté par Dorothy pour se rendre à la fameuse Emerald City, la cité d'Emeraude. On arrive à la fin de cette vidéo, et vous le voyez, même si j'ai essayé de vous apprendre un maximum de choses, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Je suis sûrement passé à côté de pas mal de choses, donc si vous dénichez vous aussi d'autres secrets, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir mon activité, vous pouvez le faire via la page Tipeee de la chaîne. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, en attendant prenez soin de vous. Ciao.